Moïse, Dieu a décidé de ne pas les punir. Jonas, que vois-tu? Comment Jonas réagit-il à la grâce que Dieu a faite à la vie de Moïse? Nous allons le lire ensemble dans la Bible, au chapitre 4 du livre de Jonas. Jonas a donc annoncé le message. Dieu a décidé de ne pas punir la ville. Et voici ce que nous lisons ensemble.
un grand merci à tous ceux qui ont participé. Alors, Anouk, merci. Pour l'arbre, c'était Nathalie et Sylviane. Je pense que Jonas, Thomas, on peut l'envoyer à Hollywood. Je pense que là, c'est bon. Hein. Et merci au narrateur, Timothée, Clémence. Merci. Et une petite annonce, avant de poursuivre, c'est que s'il y a des personnes qui ont des tout-petits qui aimeraient les emmener à la garderie, il y a possibilité d'aller à la garderie. Si vous voulez rester, c'est un culte de famille, un culte intergénérationnel, donc les petits peuvent rester, il n'y a pas de souci. Mais si, voilà, si vous voulez les emmener à la garderie, il y a une garderie qui est prévue. L'histoire de Jonas qu'on vient de voir et de lire ensemble, une histoire un peu surprenante. Dieu décide de ne pas punir la ville de Ninive, et quelle a été la réaction de Jonas? Alors je regarde tous les enfants qui sont là, les ados, comment est-ce qu'il a réagi Jonas quand Dieu a décidé de ne pas punir la ville? Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. On va afficher le verset. Il s'est mis en colère. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que le verbe qui est utilisé, parce que la Bible, elle n'a pas été écrite en français, elle a été écrite dans une autre langue qui s'appelle l'hébreu. Et le verbe, pour se dire en colère, ça veut dire devenir très chaud, devenir bouillant, s'enflammer. En fait, Jonas, il s'est un peu enflammé. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous fait penser à quelque chose, quelqu'un qui est en colère et qui s'enflamme. Moi, ça m'a fait penser à ça. Qui a vu ce dessin animé? Il y en a qui l'ont vu, ouais. C'est un dessin animé qui date de 2015, vice-versa. Et puis, il y a les émotions qui sont personnifiées. Et puis, l'émotion de la colère, c'est ce personnage-là. Et ben, quand il se met en colère, il y a une flamme qui sort de sa tête. Et ça, c'est exactement le verbe qui est utilisé dans le texte, c'est devenir bouillant, s'enflammer. Mais pourquoi est-ce que Jonas se met en colère? Pourquoi est-ce que Jonas se met en colère? Une idée? Non? Il voulait pas que Ninive soit sauvée. En fait, la décision de Dieu, qui fait grâce, qui ne punit pas, ce n'est pas ce que Jonas attendait. Jonas s'était imaginé que Dieu allait agir d'une certaine manière, mais Dieu a agi différemment. Et ça met Jonas en colère. Jonas espérait la punition de la ville, qui avait commis tant de mal, et finalement Dieu décide de ne pas la punir. Alors, est-ce que Jonas a seulement été en colère? Dans ce qu'on a vu, la façon dont Thomas nous a rendu palpable cet épisode de la vie de Jonas, il réagit aussi d'une autre manière, assez différente de la colère. On va aller relire le verset 3. « Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. » Comment est-ce que vous appelez... Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qu'il vit Jonas quand il dit ça? C'est quoi? La dépression. Le désespoir. Le désespoir, c'est une tristesse très très grande. Et si je reviens au dessin animé, hein, vice-versa, il y avait aussi ce personnage-là, le personnage de tristesse. Mais là, Jonas, ce n'est pas une petite tristesse. C'est pour ça, on va dire, c'est une tristesse plus, plus, plus. C'est un grand désespoir. Au point qu'il il voit tout en noir. Il n'a plus envie de vivre. Jonas est déçu de la réponse de Dieu. Il s'attendait à une autre réponse. Il ne pensait pas que la ville allait être sauvée. Il est déçu de la manière dont Dieu a décidé d'agir. Et je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'efforts à faire dans nos têtes pour que nous arrivions, nous aussi, peut-être à nous identifier à Jonas. Peut-être qu'on ne réagit pas de manière aussi excessive que ce que Thomas nous a montré. Mais comme Jonas, nous avons des attentes. Nous imaginons peut-être la manière dont Dieu va répondre à ces attentes. Et comme Jonas, parfois on constate que Dieu ne répond pas de la manière qu'on attendait. Il ne répond pas de la manière que nous espérions. Quelle est notre réaction dans ces cas-là? Je pense que la colère, la tristesse ou le désespoir peuvent aussi être des réalités dans nos vies, dans ces cas-là. Jonas se met en colère. Il tombe dans la tristesse, dans le désespoir deux fois. La première fois, c'est à cause de la ville de Ninive. Il se fâche, puis ensuite il demande à mourir, puis ensuite finalement il part. C'est quand Thomas a fait le tour là, puis qu'il est revenu. Et la deuxième fois où il se fâche et où il demande à mourir, c'était quand? Avec la plante. La plante, ouais. Une plante qui pousse, et puis ensuite il y a un petit ver qui arrive et qui l'a fait mourir. Et à cause de la chaleur, Jonas demande à mourir. Elle nous fait un peu sourire, cette histoire de la plante. On se dit, une réaction aussi excessive pour un petit sujet comme ça. Mais dans nos vies, je pense que nos attentes, nos espoirs, parfois ne sont pas dérisoires du tout. Parfois, nos attentes, ce qu'on espère de la part de Dieu, c'est des choses qui sont essentielles pour nous, qui nous semblent importantes, et elles le sont. Ça peut être l'attente d'une guérison. Ça peut être l'espoir de trouver un conjoint, une conjointe. Ça peut être le désir de voir une relation qui a été cassée être restaurée. Ça peut être aussi le désir d'obtenir des papiers pour pouvoir rester en France, pour pouvoir travailler. Des choses qui peuvent changer le cours d'une vie. Et parfois, la réponse à ces attentes, qui sont des attentes très fortes, n'est pas celle qu'on espère. C'est pas celle pour laquelle on a prié. Est-ce qu'il y a une autre façon de réagir que la colère ou le dépit, que la colère ou la tristesse et le désespoir qu'on voit chez Jonas? Est-ce qu'il y a un autre chemin qui est possible? Et pour répondre à cette question, en fait, l'auteur du livre de Jonas nous a laissé des indices dans le texte qu'on a lu. Des indices pour nous réfléchir, pour nous faire réfléchir. En fait, dans le texte qu'on a lu, il a caché des portes qui sont comme des portes vers des passages secrets. Et j'aurais besoin de quelques volontaires pour ouvrir les portes. J'aurais besoin de deux volontaires, de moins de 10 ans, si c'est possible. Est-ce qu'il y a des volontaires qui ont envie d'ouvrir des portes? Personne? On a un volontaire, Gabriel? Ouais? Ouais, ok. Et alors, un autre volontaire? Ouais, tu peux venir? Elona? Alors, c'est des portes, on ne va pas les ouvrir avec la main, on va les ouvrir avec ça. Un petit bouton sur lequel il faudra appuyer. C'est des portes qui vont nous faire voyager à d'autres endroits dans la Bible. Alors, on va prendre le micro, là. Hop.
Alors, Gabriel, on va afficher le texte qu'on a lu. Voilà. Alors, tu ne sais pas encore lire, mais ce n'est pas grave. Voilà. Tu vas appuyer sur le bouton, le premier bouton, là. Tu vas appuyer là, le bouton. Allez, une fois, porte. On va regarder une porte. Tu l'as vu? Il y a une porte qui est arrivée à cet endroit-là. La phrase, c'est « As-tu raison d'être en colère ?» Alors, est-ce que tu ouvres la porte? Il faut appuyer encore une fois. Oh, ça y est, la porte est ouverte. Super. Alors, on est prêt? On voyage? Alors, on va compter. Tout le monde va compter. 1, 2, 3. Et à 3, tu appuies. D'accord? Allez. Tout le monde? 1, 2, 3, vas-y. Regarde, on est arrivé, alors pareil, tu ne sais pas lire, je vais te le dire, hein. On est arrivé dans Genèse 4. Et il y a presque la même phrase. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et être abattu? Alors, je me tourne vers les plus grands, à votre avis, à qui parle Dieu ici? À Caïn. Exactement. Merci beaucoup d'avoir ouvert cette première porte. Et puis Lola, elle pourra ouvrir la deuxième.
Caïn. Exactement le même verbe, quasiment la même question. Caïn, le frère d'Abel, est déçu par la réponse de Dieu. Il espérait que son sacrifice serait accepté de la même manière que celui de son frère. Et Caïn, comment est-ce qu'il réagit ? Caïn s'enflamme, Caïn se met en colère. Donc première porte qui nous a été donnée par l'auteur du livre de Jonas. La colère que Jonas ressent, elle ressemble à celle de Caïn, qui ne s'attendait pas non plus à la réponse que Dieu a faite. Alors,
on va revenir à notre texte. C'est Baptiste qui va appuyer ou c'est Lola ? C'est Lola ? Ok. Alors, hop, je le donne. Vas-y. Bon, on affiche de nouveau notre texte. Voilà. Deuxième porte. Tu l'ouvres, elle nous emmène 1 x 17. Ah non, on va pas compter. Attends, on revient en arrière. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Voilà. 1 x 19. Il souhaitait mourir et il dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie. » Alors, on tourne vers les adultes. Qui est-ce qui dit ça ? Élie, exactement. Le prophète Élie. Dans le point commun, c'est que c'est Jonas et Élie, ce sont les seuls qui ont été envoyés auprès de peuples païens. Mais on voit qu'Élie aussi était dans une situation de grande tristesse. Merci beaucoup, Elona. Une situation de grande tristesse, de désespoir. Il venait d'accomplir au chapitre précédent de grandes choses pour Dieu, et pourtant, le roi et la reine, qui étaient des rois, une reine méchante, ont voulu tuer Élie, il a eu peur, il a dû s'enfuir. Il espérait que Dieu fasse le grand ménage, et pourtant, Élie a dû partir. Il est dans le désert, sous un arbre, désespéré. Il ne voit plus aucun espoir et il demande à mourir. Merci Gabriel et Elona de nous avoir fait voyager à travers ces portes. Et donc l'auteur du livre de Jonas, il a mis exprès ces portes dans le texte pour nous rappeler que certaines personnes dans la Bible ont déjà vécu ce que Jonas a vécu. Caïn, il s'est enflammé après avoir été déçu par la réponse de Dieu. Élie, il est devenu très très triste, désespéré, quand l'action de Dieu n'était pas celle qu'il espérait. Et on connaît la suite de l'histoire pour Caïn et pour Élie. Caïn s'est mis en colère, et il a laissé la colère prendre toute la place. Dieu lui a posé la question, « Pourquoi te mets-tu en colère ?» Et voilà, ça n'a pas suffi. La colère était trop forte, trop importante. Si vous avez regardé ce dessin animé, vice-versa, vous savez qu'à un moment donné, les choses ne vont pas se passer très bien. Désolé, hein, je spoil un petit peu. Mais Parce que il y a colère qui est aux commandes, qui est aux manettes. Et quand la colère est aux commandes et aux manettes, comme ça a été le cas pour Caïn, les choses se passent mal. Caïn s'est enfermé dans sa colère et le résultat a été catastrophique. Élie, qui était dans la grande tristesse, dans le désespoir, aurait aussi pu laisser cette tristesse et ce désespoir le dominer, se laisser enfermer. Mais juste après,
après cet appel à ne plus vivre, Dieu va donner à manger à Élie et il va lui demander de se lever, de marcher. Il va marcher pendant longtemps, pendant 40 jours, jusqu'à une montagne. Et ça, c'est un épisode de la vie d'Élie qu'on connaît bien, parce que c'est à ce moment-là que Dieu va montrer à Élie qui il est réellement. Dieu va d'abord arriver dans un ouragan, enfin il va d'abord y avoir un ouragan, mais justement Dieu n'est pas dans l'ouragan, il va y avoir un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, il va y avoir un feu, mais Dieu n'est pas dans le feu, et puis il va y avoir un souffle tout léger. Et là Élie va comprendre, il va découvrir un nouvel aspect de Dieu. Il va découvrir Dieu d'une nouvelle manière. Et ces deux portes, dans le livre de Jonas, nous montrent que Jonas, il est face à ce choix. Est-ce qu'il veut, comme Caïn, se laisser dominer par la colère ou par le désespoir? Et souvent, les deux sont liés. Hein. On peut commencer par la colère et puis ensuite sombrer dans le désespoir. Est-ce que c'est ça qui va le définir? Est-ce que c'est ça qui va l'occuper toutes ses pensées? Ou eh bien, est-ce que, comme Élie, il va accepter d'aller plus loin, d'écouter l'invitation de Dieu? Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas ce que Jonas a répondu. En fait, le livre s'arrête avec le texte qu'on a lu. La fin, elle est ouverte. On peut espérer que Jonas va plutôt suivre le chemin d'Élie, mais on ne sait pas. Si on revient à nous-mêmes et à nos réactions lorsque nos attentes sont déçues, lorsque Dieu ne répond pas de la manière que l'on espère ou que l'on attend, la colère et la tristesse peuvent nous atteindre et ce sont des réactions naturelles, j'ai envie de dire. Ce n'est pas tellement le problème d'être en colère ou d'être triste. C'est toujours mieux déjà que l'indifférence. Ce qui compte, c'est de ne pas rester enfermé, de ne pas rester dans cette réaction spontanée de colère ou de tristesse. C'est de ne pas laisser ces sentiments-là définir notre vie, changer notre manière de percevoir le monde qui nous entoure, changer notre manière de percevoir Dieu. Le texte qu'on a lu suggère qu'il y a deux voies qui s'offrent à nous, celle de Caïn, celle d'Élie. Rester sur notre réaction instinctive, naturelle, ou accepter de faire confiance à Dieu. Peut-être ça peut prendre du temps. Élie, ça lui a pris 40 jours pour arriver à cette montagne. Ne pas rester sur cette déception, mais peut-être avancer avec Dieu. Faire de ces situations de déception ou d'interrogation un point de départ pour approfondir notre relation avec Dieu, notre attachement à Dieu, notre compréhension de Dieu. Élie, il est monté sur cette montagne pour découvrir Dieu sous ce souffle léger. Et ce souffle léger, aujourd'hui nous savons qu'il a un visage. C'est celui de Jésus-Christ. Jésus, c'est la révélation parfaite de Dieu. Celui qui connaît Jésus-Christ connaît le Père. En Jésus, Dieu s'est révélé parfaitement. Et la bougie que nous allumons, qui annonce la naissance du Christ, ce temps dans lequel on veut se préparer à célébrer la naissance de Jésus, pointe dans la bonne direction. Quelle que soit la situation dans laquelle on est ce matin, peut-être avec le cœur lourd par rapport à une déception que l'on a pu expérimenter, une attente qui a été déçue, le livre de Jonas nous appelle à ne pas en rester là, mais à demander à Dieu de nous conduire plus loin, comme il l'a fait avec Élie. Et nous conduire plus loin, c'est nous amener vers Jésus. Nous pouvons lire ce que les prophètes ont annoncé à propos de Jésus. Nous pouvons lire ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit. Nous pouvons lire ce que ses disciples racontent de lui. Nous pouvons aussi écouter les témoignages des frères et sœurs, de ceux qui ont vécu peut-être cette expérience d'avoir une attente déçue et d'avoir vu Dieu aussi à l'œuvre dans leur cœur pour les amener plus loin. Et nous pouvons prier. Prier pour demander à Dieu de nous guider dans ce chemin, comme il a guidé Élie. Et je vous propose de terminer en inclinant nos têtes et en priant. Père, merci parce que je peux te faire confiance dans chaque situation. Non seulement lorsque tout va bien, mais aussi quand ma vie semble s'écrouler. Merci, parce que ta puissance est suffisante pour les moindres difficultés quotidiennes et pour les problèmes plus lourds. Lorsque je ne vois pas d'issue heureuse, tu ouvres un chemin. Tu changes les circonstances et le cœur des personnes. Il n'y a pas de douleur, de tristesse, de désespoir que tu ne saches soulager. Pas de fardeau que tu ne puisses alléger. Merci parce que Jésus a marché parmi nous sur cette terre. Il a vécu les tentations, les épreuves et les frustrations d'une vie ordinaire. Et il me comprend. Merci pour sa vie de foi, d'obéissance à ta volonté jusqu'à la mort. Merci pour la puissance de la résurrection de Jésus, qui est maintenant à l'œuvre en moi et qui le sera tout au long de mon existence. Père, ma vie est entre tes mains. Les épreuves me font grandir, elles ne m'éloignent pas de toi, ni de la relation que nous entretenons, ni de la gloire que tu me réserves. Donne-moi de porter ton regard sur mes déceptions, sur mes souffrances, sur mes doutes. Amen.